Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans l'émission Radio Foot International, votre émission et votre rendez-vous quotidien avec le ballon rond. Aujourd'hui, dans les débats du jour, une victoire historique pour la Finlande et une défaite embêtante pour les Bleus. Un coup de froid en tout cas sur la pelouse du Stade de France qui a balayé les hommes de Didier Deschamps en dessous de leurs prestations récentes. Il faut dire que pour la plupart, c'était des remplaçants. Il n'était pas vraiment dans le coup, en tout cas le débutant sous le maillot des Bleus, Marcus Thuram, a un peu brillé alors que Paul Pogba, lui, s'est éteint au fil des minutes. Quelle leçon va-t-on tirer ? En éliminatoire de la CAN 2022, le Sénégal reste en tête de son groupe. La Mauritanie a été tenue en échec, les Comores ont obtenu un bon nul au Kenya, revue des premiers résultats. Et puis gros plan sur les champions d'Afrique, les Fenecs sur la route de la prochaine CAN, mais leur regard se porte un peu plus loin. Jamel Belmadi rêve de Qatar 2022. Paris ou Marseille, votre cœur balance-t-il et de quel côté surtout? Alors du côté de la mer, de la cité phocéenne, méditerranéenne et du côté de la ville lumière, de la capitale qui rêve grand mais qui n'est pas une ville de foot selon Leonardo, le brésilien directeur sportif du PSG, et cela sème la zizanie. Vous êtes plutôt quoi, Dominique?
Moi, mon cœur tranché, c'est pour vous, Annie. Moi. Mon cœur, il est auprès de vous.
C'est voilà. Très bien, comme ça, au moins, voilà. Vous réconciliez les deux villes. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et vous? Vous, c'est Londres, je sais déjà, c'est
un ça petit peu, ouais. Un petit peu du côté de Londres, ouais.
Non, et même pas la mer, bon. Nabil, je sais aussi.
Oui, mais il ne faut pas le dire.
Bon, Nabil,
juste un indice, je suis né à Saint-Germain-en-Laye.
Mais,
y a, voilà, après, je ne peux pas continuer.
Voilà, cet indice, je crois que c'est un indice qui est juste là pour perturber, chers auditeurs, surtout si vous connaissez bien Nabil Djellit. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Alors, c'est parti.
Bonjour, c'est moi, le Père Noël, ici en Laponie, en Finlande, sur le cercle polaire arctique. Commençons par mon nom. En finnois, Père Noël se dit Joulupukki. Si vous le voulez, vous pourrez m'appeler Joulupukki.
Et Niskanen, la frappe est somptueuse de la part d'Olive à la carie. 2-0 pour la Finlande.
Alors, voyons si vous avez été attentif. Comment on dit
c'est
Père
déjà
Noël
beau, déjà, d'avoir retrouvé le Père Noël, parce qu'en période de confinement,
ben oui, voilà,
David Finzel est vraiment très très fort.
On se demande tous s'il trouvera nos cheminées à la fin du mois de décembre avec le confinement,
fermé,
n'est-ce pas
hein,
oui, exactement. En tout cas, il a trouvé l'ouverture du Stade de France hier.
Ah, hein,
c'est indéniable.
Oui, en tout cas, les Français ont fait des cadeaux. Ça, je peux vous
il y en a qui vont se faire en guirlandais.
C'est ça.
Voilà, on peut continuer.
Alors, c'est bien.
On a eu les boules, etc.
On n'a pas eu la haute au jeu.
Bon, allez, on va arrêter, parce que c'était sur le score de 2-0, on vous le dit. Les Finlandais ont donc imposé leur rythme aux Bleus hier soir. Deux gros moments d'absence, on va dire comme ça, des Français, et une victoire donc historique pour cette équipe finlandaise qui n'est que 55e au classement FIFA pour l'instant, mais elle s'est qualifiée pour le prochain Euro. Et déjà, le sélectionneur, Markku Kanerva, regarde à l'horizon.
Eh bien, je suis très satisfait de cette victoire et de la manière dont nous avons joué. Bien sûr, cette victoire nous donne beaucoup, beaucoup de confiance. Après, la préparation pour l'Euro est un processus. Il faut arriver à développer notre jeu, à mettre en place notre jeu pour l'Euro. On va en parler avec les joueurs. Évidemment, on a de plus en plus faim. Et notre confiance grandit de plus en plus, donc on n'y va pas simplement pour participer, on veut également avoir des résultats, ce qui va être très difficile, très difficile. On a dans notre groupe des équipes très fortes.
Alors, au vu du match d'hier soir, ont-ils raison d'être optimistes, ces Finlandais qui sont sortis finalement si heureux du terrain hier soir? Allez, Bruno Constant.
Est-ce qu'ils ont été heureux?
Non, mais est-ce qu'ils ont raison d'être heureux et de regarder l'horizon? Ils seront dans le groupe de l'Euro, un groupe très septentrional, on s'est dit, hasard du tirage au sort. D'abord, ils seront avec la Russie, leur gros voisin, et puis ils seront aussi avec le Danemark et la Belgique.
Bah oui, forcément, ils sont très heureux quand on vient se battre les champions du monde en titre sur leur terrain, forcément.
En amical.
Ouais, mais ça compte quand même quand on est la Finlande, peu importe le match face aux champions du monde. Non, non, c'est magnifique pour eux.
Non, je trouve que c'est une équipe qui a progressé pour le peu que je la vois, puisque la dernière fois, c'était forcément au Stade de France et à Helsinki, où j'ai vu un but d'Abou Diaby, donc ça nous rajeunit pas. Mm-hmm. Ça veut dire qu'Abou Diaby joue au foot et qu'il mettait des buts. Donc, sur une passe de Karim Benzema. Donc, vous voyez, je parle un peu du monde d'avant, quoi. C'est là où je fais mon âge.
Ça existait, ouais.
Et donc, elle progresse parce que, par exemple, sa ressortie de balle est beaucoup plus propre qu'avant. Avant, c'était des longs ballons, on sautait le milieu de terrain. Désormais, ça essaie de construire un peu de derrière. Alors, il y a quelques attaquants que Bruno connaît. Il joue dans le championnat anglais.
Timo Pukki, oui.
Voilà. Très bon joueur, ouais. Donc, c'est pas mal. Franchement, la Belgique, ça me paraît très, très au-dessus. Mais sinon, la Russie et le Danemark, même s'ils ont fait demi-finaliste de la Coupe du Monde, et le Danemark, je pense qu'il y a un coup à jouer pour eux à l'Euro, s'ils maintiennent ces standards, parce que ça s'inscrit dans une dynamique où ils étaient déjà sur trois bons résultats. Donc franchement, ils avaient un petit déficit pour marquer des buts. Là, visiblement...
Alors après,
encore une fois, il y a des cadeaux. Aide, hein. Il y a des cadeaux. Il y a une passe décisive de Moussa Sissoko.
Et une autre de Ben Yedder.
Et Steven Nzonzi qui a décidé de pas défendre. Donc, ça fait beaucoup quand même pour un match international. Mais voilà, ils ont quand même des bons petits joueurs.
Nabil, est-ce que finalement les Finlandais peuvent faire le coup des Islandais?
Non, je pense pas, parce que je trouve que c'est une équipe quand même qui est, même si c'était pas l'équipe A de Finlande, faut quand même le rappeler hier, parce qu'il y a des joueurs qui sont rentrés en cours de match, qui sont titulaires. Pukki, Kamara aussi. Que je suis particulièrement, qui est au Glasgow Rangers, qui est un bon milieu récupérateur, que Andounis Zubizarreta avait repéré avant de se faire congédier du côté de Marseille. C'est une équipe qui est solide, sans génie. Je pense qu'elle a quand même un déficit technique dans des éléments offensifs. C'est une équipe qui va assez vite, qui ressort le ballon plutôt intelligemment, comme l'a dit, avec sérénité même parfois, comme l'a dit Dominique. Mais je pense quand même que la Belgique, c'est plus fort. Alors évidemment, il faudra pas faire preuve de suffisance de la part de leurs adversaires directs. Mais la Russie et le Danemark, ça me paraît quand même être un ton au-dessus. Alors c'est vrai que le format de Storo permet peut-être aux trois premiers de se qualifier. Alors sur le premier
tour. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec l'Islande, parce qu'on se souvient qu'ils étaient arrivés, c'était leur premier Euro en France, et puis ils étaient allés jusqu'en quart quand même.
Oui, mais
la différence avec l'Islande,
je trouve qu'ils jouent mieux que l'Islande quand même.
Oui, mais la différence avec l'Islande, c'est qu'ils avaient un bloc très bas, très compact, quand même difficile à percer, et qui permet sur une occasion ou deux de remporter un match. La Finlande, c'est un peu plus ouvert quand même. Hein.
Après, le problème de ce genre d'équipe, c'est que si vous leur mettez un but, quelle est leur capacité de réaction? Je dis pas qu'ils peuvent pas, revenir. Je dis pas que c'est faible, hein, loin de là.
Ils peuvent en mettre deux.
Ils ont pu en mettre deux hier.
Ils pouvaient être aussi menés 2-0.
Voilà.
Tu l'as dit sur la troisième place, qui est qualificative parfois.
Ils peuvent aller la matcher.
Je te rappelle que on a vu ce format qu'une seule fois, et le champion d'Europe, le Portugal, a fini troisième. Poule avant de gagner le titre.
Donc voilà, ça peut être. Est-ce que ça peut être une équipe révélation? Si je dois mouiller, moi je dirais non.
Bon, eh ben on verra ça très bientôt. En tout cas, félicitations. Je sais pas comment on dit. Il faut demander au Père Noël. On dit félicitations en finnois, mais en tout cas bravo à cette équipe de Finlande. Alors ces Bleus, contre lesquels beaucoup de voix et beaucoup de tweets aussi se déchaînent depuis hier soir. Alors certes, c'est une défaite historique. Certes, ils ont interrompu une belle suite de 16 matchs à domicile sans défaite depuis le match perdu contre la Colombie, on s'en souvient, en mars 2018 quand on fêtait les 20 ans de la Coupe du Monde. Alors certes, ils avaient enchaîné 8 matchs consécutifs sans perdre dernièrement. La leçon est claire, selon Didier Deschamps, au micro d'Antoine Grenier.
On a pris une bonne gifle, je ne vais pas m'attarder trop dessus. On doit déjà basculer par rapport à ce qui nous attend et à partir de là, le résultat, il est logique.
Alors la bonne gifle, Dominique, c'est vrai que cette équipe béoussée, je sais pas, qui n'avait quand même, il faut le dire, jamais joué ensemble, qui joue un amical en plus avec des garçons qui parfois ne sont pas titulaires dans leur club. Est-ce que c'est grave, docteur Sebrak?
Vous me dites que ça se déchaîne sur la twittosphère, donc moi j'y suis pas, donc je vous fais confiance, mais je trouve ça un peu bizarre.
Mais moi je peux vous le confirmer.
Je trouve ça un peu bizarre, parce qu'ils ont, il y a un mois ils ont gagné 7-1 contre l'Ukraine, je crois pas que...
Bah, on s'attendait peut-être à ce qu'ils fassent 7-1 contre la Finlande.
Oui, d'accord, mais c'est pas parce que t'as gagné 7-1 contre l'Ukraine qui avait 13-4 Covid que tu t'es devenu un favori en puissance de l'Euro 2021, que tu seras, de toute façon tu seras, parce que t'es champion du monde, tu seras favori. Écoutez, il y avait 4 champions du monde au coup d'envoi, vous l'avez dit, dont 2 qui jouent jamais, en tout cas qui n'étaient pas titulaires à la Coupe du Monde en Russie, Mandanda et Zonzi. Les deux autres, c'était Pogba
et je ne sais déjà plus, mais je vais retrouver.
Oui.
Mais voilà, donc c'est une équipe que vous ne reverrez jamais, cette équipe de France-là. Elle est complètement expérimentale, elle est sans automatisme. Ce match-là est scandaleux d'avoir été rajouté dans le calendrier parce qu'il est uniquement là pour honorer un contrat de diffuseur.
Déjà, on avait beaucoup parlé hein, au moment voilà. du match de l'Ukraine.
Donc, si jamais vous tenez absolument à jouer,
dans cette année folle,
de reverser l'argent, les 4 millions d'M6, reverser-les au monde amateur qui lui a arrêté, qui a plus de buvette, qui a plus rien. C'est pas de la démagogie, mais c'est que le monde amateur est en train de crever la gueule.
De disparaître.
De disparaître. Donc, ouais. si vous voulez au moins faire une bonne action, reverser des 4 millions pour le monde amateur et pas pour qu'il y a 2 millions de licenciés, la France se gargarise d'avoir de la fédération, tout ça. Mais donc, écoutez, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont très mal joué. De toute façon, l'équipe de France, on le sait, quand elle n'est pas en forme, elle ne peut pas être sauvée par son jeu, elle n'en a pas tellement. Donc, elle a eu énormément la possession puisque les Finlandais défendaient. Et la possession, elle sait pas trop quoi en faire puisque c'est pas une équipe qui sait pas, elle a pas le style de l'Espagne, elle a pas le style de l'Allemagne, même si l'Allemagne a d'autres problèmes. Donc, voilà, elle peut s'en sortir par des coups d'éclat d'individualité. Même quand Griezmann est rentré, ça n'a pas marché. Il a une énorme occasion à la fin. Ça ne marche pas. Pour moi, on jugera la séquence à la fin, après le Portugal, après la Suède. Et là, je vous dirais si c'était grave d'avoir perdu contre la Finlande. Là où on se parle le lendemain, bon, bah, c'est une défaite triste. Comme un 11 novembre, mais c'est pas bien grave, quoi.
Nabil.
Non, mais on peut pas dire encore, effectivement, on n'a pas cette distance pour dire qu'il y a quelque chose qui a basculé. Il y a peut-être quelque chose qui a basculé pour certaines individualités. Qui est pas
ça
de gagne. De
toute façon,
si t'es bon hier contre la Finlande, c'est un train qui arrive à l'heure, donc tu gagnes pas forcément de points. En revanche, si tu passes à côté, ou si t'es pas bon, mis à part peut-être certains qui ont un totem d'immunité pour des raisons de logique de groupe, vous allez me dire, moi je pense que Sissoko, de toute façon, Didier Deschamps, il sait qui est Sissoko, même s'il a été mauvais hier. En revanche, il y a d'autres joueurs, bah, je sais pas si on va y revenir, je veux pas court-circuiter le...
Allez-y, mais on y reviendra après.
Non, mais Giroud, le deuxième joueur.
Non, ouais, voilà, non, mais je veux dire, je veux dire, bon, bah, sur le match d'hier, sans vouloir rentrer dans les individualités, enfin.
Qui moi, a perdu des points?
Bah, ce qui me dérange le plus dans le match d'hier, c'est pas tellement qu'on marque pas. C'est-à-dire que, quand en fait, vous faites face à un bloc bas et que vous dominez outrageusement, même le Barça, des fois, ça leur arrive pas marquer un but au bout d'une mi-temps. Je veux dire, ça arrive, c'est un manque d'efficacité. Puis quand vous avez joué au foot, quand vous faites de l'attaque-défense, c'est hyper difficile de marquer. Il faut mettre de la vitesse, créer des déséquilibres. Des fois, à l'entraînement, on peut même vous enlever un adversaire. Et même comme ça, vous avez du mal à marquer. Non, ce qui est gênant, c'est les deux buts qui ont été pris et la manière dont ils ont été pris. Là, on peut pas dire, ouais, c'est un match dans le calendrier,
alors
ça compte pas.
Alors qu'ils avaient un peu bien commencé le match, en plus, ouais, Nabil, oui. Pendant le premier 30 minutes.
Non, mais après, c'est quand même une question d'état d'esprit, de forme physique,
et
d'état
d'esprit. Et puis de connaissance, c'est pas un groupe qui a l'habitude d'automatisme. Ils jouent très rares. Ouais, ils jouent jamais ensemble, tout cela, en plus.
Celui de Sissoko, bon, je veux bien que l'anglais se fasse prendre, il est pas bon, mais Ben Yedder, au moment où il perd le ballon, il le perd quand même. C'est pas Ginola, hein, c'est pas juste. Il le perd assez loin du but. Je veux dire, il y a quand même le temps de rattraper le coup. Après, évidemment, moi, pour moi, les individualités, j'en resterai là, qui ont perdu des points. Ben Yedder, personne n'en parle. Je pense que c'est pas bon pour lui. Je le dis comme je le sens. Tout le monde parle du mauvais match de Giroud, mais Giroud, il y sera, il n'y a pas de problème. Et on sait pourquoi. Celui qui a perdu des points également dans cette histoire, c'est l'anglais. Nzonzi. Ce qui peut le sauver, c'est que c'est le remplaçant un peu naturel de Kanté comme sentinelle parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que lui. Puis c'est pas un joueur qui est fait pour jouer des matchs où vous dominez aussi outrageusement parce qu'il faut avoir du volume au milieu, faut courir. Il y a peut-être des joueurs par contre qui ont gagné des points et qui sont pas là, je vais quand même le dire. C'est peut-être Matuidi, quoi. Non mais je veux dire, non mais il est loin, ouais. Mais attention, attention. Après, très sincèrement, bah Sissoko, on le connaît, je l'ai déjà dit. Digne a fait un bon match pour moi.
Les deux qui ont perdu des points, ces deux remplaçants habituels, c'est l'anglais et l'anglais et Moussa Sissoko, qui sont pas champions du monde et qui étaient là pour dans une liste de 23. L'anglais, il est en concurrence avec
Kimpembe.
De 26
Mbembe, même, hein, à 26, cause du Covid. Ouais.
Mais il était en concurrence. L'anglais,
pas
il est en concurrence avec
Sissoko.
Kimpembe.
A perdu des points.
Mais... Et puis Sissoko, il était même pas à son poste.
Non, mais il peut actuellement être s'il y a beaucoup de blessés, il aurait pu être dans les 23 de l'Euro. Mais en revanche, Nabil a passé un peu dessus un peu vite.
Ils ont dit qu'il est pas d'accord.
Non, c'est sur Giroud. C'est Giroud, toujours pareil.
Tu crois qu'il va l'enlever?
Non, il va pas l'enlever. Mais au match contre la Croatie le mois dernier, c'est une attaque Martial, Griezmann, Mbappé.
Mais Giroud, il peut devenir remplaçant. Je m'excuse, sera à l'Euro.
Ah, c'est sûr.
Sur Giroud, on parlait du contexte. C'est une équipe qui a jamais joué ensemble. De toute façon, c'était un match pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas.
à des nouveaux comme Marcus Thuram qui faisait ses premiers pas, sans pression contre la Finlande dans une équipe modifiée, et à des doublures ou des remplaçants de remplaçants qui peuvent peut-être tenter leur chance. Oui. On a parlé de ceux qui étaient... Mais Giroud, en l'occurrence, ce match-là, alors, il servait uniquement à lui donner des minutes dans les jambes. C'est tout, il ne joue pas avec Chelsea.
Avant de parler alors, de celui qui a réussi peut-être son examen hier, parlons de Paul Pogba, Bruno, d'autant que vous suivez le championnat d'Angleterre. Qu'est-ce qui lui arrive? On a l'impression, la sensation, ça a toujours été un peu comme ça avec Pogba. C'est une carrière un peu en pointillé, en fait. C'est-à-dire, il y a des moments très bons et des moments moins bons. En bleu, plutôt régulier, mais dans son club, pas du tout. Et aussi des blessures. Est-ce que c'est grave, là, finalement? Parce que hier, on l'a vu perdu sur ce terrain. Les photos, d'ailleurs, sont très dures. Parce que pour illustrer pratiquement la défaite de la France, c'est Pogba par terre ou à terre ou un genou à terre.
Et avant de laisser la parole à Bruno, c'est une blessure sur une...
Oui, parce que là, je trouve que Bruno, on l'entend pas beaucoup.
Il nous a laissé sur une passe exceptionnelle en Croatie.
Oui.
Oui, non, mais moi, je suis pas inquiet pour Pogba parce que c'est le Pogba qui existe depuis maintenant à peu près 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est arrivé à Manchester United. Ça fait 4 ans qu'il est comme ça. La seule grande différence, c'est qu'avant, ça se voyait moins avec les Bleus et qu'il arrivait toujours à surnager ou à retrouver un peu de feu avec cette équipe de France où il se sent bien, où il est bien encadré, etc. Après, ce qu'on voit de Pogba, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est ce qu'on a vu l'année d'avant. C'est lui, c'est juste Pogba. Quand il arrive à Manchester United, il faut rappeler que c'était le transfert le plus cher de l'histoire. Il était 105 millions d'euros.
105.
Ça n'a pas duré longtemps, d'autres l'ont battu derrière. Mais c'est pour rappeler dans quel contexte il est arrivé. Et il n'a jamais justifié d'être ce grand joueur. Il n'a jamais été bon plus de un mois et demi avec Manchester United. Et le problème, c'est que les problèmes qu'on a vus sous Mourinho, on voit exactement les mêmes sous Solskjaer, on voit exactement les mêmes depuis le début de la saison. On a dit à un moment donné que c'était la faute de Manchester United parce que c'était pas une grande équipe et que ça marchait pas, etc. Il y a Bruno Fernandes qui arrive, qui a coûté deux fois moins cher en janvier, et qui lui a fait briller Manchester United, qui l'a ramené troisième du championnat. Oui. Donc ça veut dire que, le problème, ce n'est pas Manchester United, c'est Paul Pogba.
Et alors justement,
il avait un problème
avec Mourinho. Est-ce qu'il a un problème avec... Non. C'était sur la place publique. Est-ce qu'il a un problème avec Solskjaer?
Absolument pas. C'est juste que les meilleurs jouent. Et que Solskjaer, à un moment donné, ça a marché quand il a associé Pogba, Bruno Fernandes et une sentinelle devant, un milieu à trois, lors du restart. Ça a plutôt bien marché. C'était pas exceptionnel, mais ça marchait. Et depuis le début de saison, après, il y a un inconnu qu'on mesure peut-être pas. Il a eu le Covid.
Ouais, c'est ce que je pense.
Il a eu sa préparation, en pleine préparation estivale. Ouais. Solskjaer a expliqué qu'il n'a pas pu faire le seul match de préparation, qui était contre Villa. Il n'a pas pu faire du temps de jeu lors des premiers matchs qui ont servi à faire tourner un peu l'effectif. Et du coup, je sais pas dans quelle mesure il souffre, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est physique, quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'a pas de jus du tout.
Il est en retard hier à plusieurs reprises sur des interventions.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on se demandait en préparant l'émission, quand est-ce qu'on allait pouvoir, en gros, faire un bilan de ces joueurs qui ont eu le Covid.
Mais
et
c'est
qui
une vraie
justement,
question.
Parce que hier, on passait une interview du sélectionneur belge par rapport à Eden Hazard, qui devait rejoindre le groupe parce qu'il n'était plus blessé, et lui aussi a le Covid. Alors, ils espèrent peut-être le faire jouer le troisième match. Mais, il dit qu'il s'entraîne chez lui, mais c'est vrai que du coup, tous ces joueurs, on se demande jusqu'à quel point on dit que le Covid fatigue énormément les organismes, en plus les poumons, donc c'est ce dont ont besoin les joueurs.
Il y a des lésions importantes.
Exactement. Alors, pas toujours importantes, mais parfois très importantes.
Bon, surtout
pour
un athlète. En réanimation,
exactement. Donc, sur un athlète de haut niveau, bien sûr.
Voilà, c'est pas parce qu'on est jeune et en bonne santé que ça peut vous épargner.
Alors, Cristiano, apparemment, lui,
comme il y a des gens de 85 ans qui s'en sortent aussi très bien.
Ça serait plausible pour vous aussi, Dominique.
Pour moi, tout est plausible, mais en plus, je trouve que ça... Autant quand tu te blesses, tu te fais les croisés, c'est très grave, ou tu te tords la cheville, tu comprends ce qui t'arrive. Mais quand tu chopes la Covid, tu ne comprends pas trop, tu ne sais pas combien de temps tu vas être isolé, combien de temps tu vas te mettre pour te repréparer, tu vois plus tes camarades, c'est un peu...
Tu es un peu banni.
Alors que ce n'est pas pareil que tu t'es tordu la cheville, tu connais l'histoire, tu mets de la glace, tu vas tel jour aux soins, on te fait telle manipulation de kinésie, voilà, thérapie, mais là c'est compliqué.
Après Pogba, il y a aussi c'est un joueur qui est galvanisé par le public, c'est un joueur qui aime le show. Peut-être qu'il va être meilleur face au Portugal parce qu'il va hisser son niveau de jeu, parce qu'il va se dire que les joueurs qui sont en face de lui, c'est des grands joueurs. Peut-être que le match d'hier, je dis pas que ça l'intéresse pas parce que ça reste comme un joueur professionnel, mais il va peut-être pas mettre la même intensité C'est comme un match de boxe, quoi. Je veux dire, si on lui dit le gars en face, il a 12 défaites, 22 victoires, et que le match d'après, il joue un adversaire qui a 23 victoires, dont 22 KO, je pense que c'est aussi un. Il aime ça, lui, en fait. C'est, ça lui ressemble aussi. Donc lui, c'est un joueur de tournoi, en fait, de grands matchs. Et quelque part, ces étapes intermédiaires, je dis pas que ça l'intéresse pas, mais quand il est au top, on sait ce qu'il vaut. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la distance nécessaire pour savoir quels sont les impacts sur un tout un chacun. Et un autre truc qui rentre en ligne de compte, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de blessures, mais un truc qu'on oublie, c'est que de toute façon, dans les blessures, il y a toujours une part psychosomatique et le climat anxiogène, les conditions de vie, les isolements. Oui, et puis on sait que les joueurs de foot, c'est un peu comme des Formule 1, c'est-à-dire que si tu touches un réglage, tu peux tout dérégler toute la machine. Donc il y a aussi ce côté un peu orfèvrerie qu'on retrouve chez certains athlètes.
Tu as raison sur un truc, c'est qu'on ne mesure pas non plus, c'est de jouer dans des stades vides. Il y a des joueurs, ça leur pose aucun problème, c'est des robots, ils jouent, ils sont performants. Un mec comme Pogba qui a besoin de montrer, qui a besoin d'interaction avec le public, peut-être que c'est un joueur qu'on souffre beaucoup. Il y en a en Angleterre qui ont confié qu'ils n'arrivaient pas à se motiver à jouer dans un stade vide. Ils n'arrivent pas à avoir l'adrénaline qui monte et le regain de truc. Donc peut-être que ça fait... Après, il y a autre chose sur Pogba. C'est que si Pogba n'avait pas été irrégulier les trois dernières saisons, on se poserait moins de questions. Or, c'est son visage aussi. Depuis 3 ans, 4 ans, c'est comme ça. Et honnêtement, en Angleterre, il commence à être de plus en plus contesté.
Est-ce qu'il doit quitter Manchester?
À un moment, on disait, il faudrait qu'il quitte Manchester. Ouais. Il est sollicité à droite à gauche. Real, combien d'offres il a eu? Il a eu zéro offre.
Zidane est vraiment intéressé.
Zidane a dit, je suis intéressé. Mais le Real n'a jamais montré le moindre intérêt pour Pogba. Et je pense qu'ils sont plus intéressés, ils ne sont plus.
Ah ouais, un peu meilleur à la Juve, ce qui est quand même.
Oui, mais je pense que la Juve, t'as raison.
Ce qui est quand même pas le sens de l'histoire, puisque normalement, il est censé s'améliorer au fil des années.
Mais le problème, je suis d'accord, le problème, c'est qu'on rappelle souvent cette histoire de la Juve. Déjà, quand on parle de Pogba aux suiveurs de la Juve, aux supporters de Turin, ils sont pas tout à fait d'accord. Ils disent qu'il était très irrégulier. Et puis surtout, la Juve, maintenant, ça commence à faire 4 ans. Et même plus de 4 ans. Et c'est ça qui...
Il aurait dû progresser.
Ça s'étire. On l'a fait venir à Manchester. Ça devait être quelqu'un qui portait le club de Manchester, qui devait ramener le club de Manchester en haut. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas cette dimension-là.
Cette aura, ouais.
Et c'est pour ça que la phrase de Carragher qui a fait beaucoup parler quand il dit que c'est pas un grand joueur, c'était inexact. Ce qu'il dit, c'est que c'est quelqu'un qui a du talent, qui a beaucoup de talent.
Oui.
Mais il dit beaucoup de talent, ça fait pas un grand joueur. Il est pas assez régulier.
Et après, il sera sauvé, Annie, par deux choses. C'est que la concurrence est pas dingue.
Oui,
pour lui ça. En équipe de France.
Certes.
En tout cas, à
Manchester. Mais il est important.
Et puis, il est un soldat de Deschamps.
Tout à fait. Et on l'a vu sur son entrée en Croatie. Ça passe encore une fois. Parce que même fatigué, même un peu perdu, un peu dans le brouillard, sa vision du jeu et c'est son jeu long, par exemple, sont exceptionnels. Cette passe pour Lucas Digne qui amène le but de Mbappé. Moi, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu, déjà en 2020. Et même en équipe de France sous Deschamps. C'est fantastique, quoi.
Je pense que sur une période courte, où il est programmé comme Deschamps va le programmer sur une Coupe du Monde,
un
Euro.
Sur un tournoi,
je pense qu'il peut être
énorme. Rendez-vous.
Je pense qu'il sera au rendez-vous.
Il sera au rendez-vous.
Alors celui qui a fait ses débuts hier en tant que titulaire, et je me souviens de l'anecdote de Mandanda qui dit j'ai joué avec le père en 2008, maintenant je joue avec le fils en 2020, et ça veut dire que le temps passe, et bien c'est Marcus Thuram. Un des rares à avoir tiré son épingle du jeu pour vous, Dominique.
Oui, c'est une première réussite. En général, une première, on dit qu'il faut à vraiment attendre la deuxième, voire une dixième sélection pour se faire un avis. Là, on sait que ça sera pas un coup sans lendemain. On sait pas exactement ce que va devenir la carrière de Marcus Thuram en équipe de France. Mais c'est une première, encourageante, qui donne envie de qu'on le revoie. Et donc, ce qui est pas toujours le cas, parfois il y a des premières très très neutres, très difficiles. Donc là, franchement, s'il peut s'accrocher, parce que aussi on a vu ces dernières années beaucoup de joueurs débarquer en équipe de France, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Hassan Plea, Wissam Ben Yedder, tous pas dans le même poste, mais dans le même secteur offensif. Donc lui, je sens qu'il va revenir, mais je sais pas s'il va s'installer.
Est-ce que moi, je vais te poser la question, parce que tu suis les Bleus depuis très très longtemps.
Oui, merci.
Moi, ça m'a surpris parce que
Mandanda joue pas avec le fils de Marcus Thuram, parce que alors là, ça commence. Ça devient un peu problématique pour les Bleus.
Moi, ça m'a surpris de le voir toucher autant de ballons pour sa première. Et je me demandais, dans tes souvenirs, est-ce que tu te souviens d'une première sélection comme ça où le mec est sur quasiment toutes les actions?
Ça m'a rappelé un petit peu la sélection de
Marvin Martin.
Antoine Griezmann. La première sélection d'Antoine Griezmann le 5 mars 2016, quelques mois avant 5 mars 2014, quelques mois avant la Coupe du Monde au Brésil, où là c'était contre les Pays-Bas.
Oui,
il a aimanté énormément, il a aimanté énormément de ballons. Et donc voilà, ça m'a rappelé ça. C'était donc il y a 6 ans.
Parce que c'est rare. Hein.
Oui, c'est très rare. Mais ça veut dire aussi qu'autour de lui, il n'y a pas tellement de mouvement.
Je veux dire que Ben Yedder et Giroud et lui s'est rendu disponible et bon voilà, il a pêché dans la finition, mais c'est effectivement c'est exactement ce que dit Bruno, on a vu que lui.
La France, avec cette défaite, ira donc au Portugal samedi soir pour rencontrer CR7 et ses camarades au Estádio da Luz. Hein, il faut dire da Luz et pas da Luz, hein, s'il vous plaît.
La
lumière, voilà. Mais en portugais, ça se dit da Luz, parce que on entend évidemment d'autres qui raillent en disant da Luz. Non, ils n'iront pas perdre. En tout cas, peut-être pas. Mais les Portugais ont gagné, eux, 7-0 hier soir contre Andorre. Hein, je me demandais si c'était San Marin ou Liechtenstein, mais c'était Andorre.
Il reste quand même quelques petites sélections.
Hein, il en reste encore un peu, sans marin, tout ça, Gibraltar. Ces résultats en amicaux, Nabil, est-ce que ça peut influencer un match officiel, puisque ça sera pour la Ligue des Nations?
Je pense qu'il n'y a pas d'enseignement particulier à tirer d'un match entre le Portugal et Andorre, sauf le capital confiance, peut-être travailler certains automatismes, éventuellement se retrouver face à un bloc très bas qui défend ensemble. Donc ça, c'est des choses, vous pouvez répéter un peu vos gammes, essayer de trouver des solutions, mais... mis à part si physiquement certains joueurs avec les calendriers frénétiques actuels vous leur faites jouer quand même ce match-là et vous les faites enchaîner contre la France, peut-être qu'ils auront moins de cannes effectivement là à partir de là, mais le match en lui-même et le résultat technique, il a aucune signification pour moi.
Bruno ?
Oui, moi ça m'a surpris la composition d'équipe du Portugal, parce qu'on voit dans d'autres nations on fait pas mal tourner, on a peur des blessures, et lui il a pas fait tourner, il a mis pas loin d'une équipe type, et je trouve que le Portugal, moi ça m'intéresse ce match contre France-Portugal, parce que
Portugal-France.
Mais parce que j'ai l'impression que c'est presque la finale avant l'heure de l'Euro. Mmh. Pour moi, c'est les deux grands favoris de cet Euro. C'est les deux équipes les plus complètes. Le Portugal, ils ont un vivier de joueurs. C'est juste exceptionnel.
Bah là,
au milieu de terrain, offensivement.
Et Danilo, figurez-vous, Annie, que Danilo est milieu de terrain au Portugal. Alors, je sais pas comment c'est toi qui suis aussi le PSG, parce que tu suis tout, Dominique. Quel poste joue-t-il au PSG?
Je crois qu'il est utilisé comme défenseur central. C'est incroyable.
Non, je ne vous crois pas.
C'est sa polyvalence.
C'est dingue. Tant qu'il n'est pas gardien de but.
Alors, on suivra évidemment avec attention le match des Bleus en fin de semaine. Allez, un crochet par l'Afrique, parce que l'Afrique, elle jouait et ça compte déjà. Ah. Ça compte pour la CAN 2022.
Allez, Sadio Mané, en cette fin de première mi-temps, première période, face à Jonas Azerdo Mendes, leader technique de cette équipe du Sénégal. Sadio, c'est parti, c'est frappé, c'est transformé. Le Sénégal qui ouvre le score sur penalty, donc grâce à sa star, Sadio Mané.
J'adore cette musique. Non, c'est vrai, j'adore. Ça fait du bien en ces périodes troublées, quand même, un peu de légèreté, un peu de musique.
Ouais, ça, c'est signé David Finzel, me dit Maestro Salerno. Sous le chaud soleil de Thiès hier et sans public, les Lions de la Teranga ont remporté le premier de ces deux matchs, de ces deux derbies, hein, puisque c'est face aux voisins de la Guinée-Bissau. Victoire 2-0, ça fait 3 victoires sur 3 dans ce groupe, avec le Congo Brazza et Eswatini. Eswatini. Le Sénégal, 21e FIFA, donc, et premier du continent africain, qui maintient son rang. Match gagné, pas facile, c'est ce que nous dit Aliou Cissé.
Un match sérieux, dans des conditions difficiles, avec la chaleur, jouer à 16 heures dans ces périodes-là où il fait très 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 chaud. C'était un petit peu compliqué, mais je loue vraiment le sérieux de mes joueurs et leur détermination à vouloir remporter et empocher ces 3 points-là. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques dans notre construction. On n'a pas su, à un moment donné, trouver de fluidité en première période et on n'a pas utilisé, pas assez en tout cas, la largeur du terrain. Mais je pense qu'en deuxième période, on a su quand même bien rectifier les tirs. C'est 3 points, comme on dit, et c'est important de les avoir pris aujourd'hui.
Évidemment, et c'était Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, au micro de Babacar Fall. Nabil Djellit, il faut mettre ce match dans le contexte, c'est-à-dire bon, on a un pénalty de Sadio Mané.
Un pénalty généreux, à mon sens. Ouais. S'il y avait eu un coup de VAR, je ne suis pas persuadé qu'il y a pénalty sur Ismaël Assar, mais bon.
Il est au deuxième aussi, à l'origine du deuxième.
Oui, et là par contre, il fait une belle passe avec une belle frappe derrière Dopa Nguet, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Le Messin qui fait un bon début de saison d'ailleurs avec les Lorrains. Mmh. Écoutez, moi sur le match, j'ai regardé, donc pas de surprise pour moi, parce que le Sénégal, de toute façon, c'est un peu comme l'équipe de France en Europe. C'est une équipe qui a beaucoup d'ingrédients pour faire du beau jeu, mais c'est rarement au rendez-vous à ce niveau-là. tous les ballons globalement et toutes les impulsions offensives passaient soit par Sarr, soit par Mané, mais surtout par Mané qui, comme à Liverpool, s'appuie et s'attend à 1-2 ensuite pour finir l'action. Moi, j'étais surtout inquiet, je vous dis, Annie, clairement un peu les choses, de la pelouse que j'ai vue à Thiès. Alors, encore une fois, le Sénégal n'a pas le monopole des mauvaises pelouses en Afrique, mais il y a un moment, on est dans une séquence où on entend de plus en plus des entraîneurs de clubs en Europe, notamment, se plaindre du calendrier frénétique et des joueurs qui voyagent à des milliers de kilomètres. Donc, je pense qu'à minima, et d'ailleurs, c'est un grand chantier pour le football africain depuis 1987, quand Issa Hayatou a été élu et qu'il avait dit qu'un de ses plus grands projets, ou du moins un de ses plus grands objectifs, c'était avoir des pelouses et réduire donc les prises de risque pour des joueurs payés très cher, parce que qu'est-ce que vous faites là, c'est contre-productif, c'est-à-dire que en gros vous donnez des cartouches aux clubs européens qui déjà ne veulent absolument pas lâcher leurs joueurs pour les raisons qu'on connaît, et vous les exposez à des blessures sur des pousses catastrophiques. Parce que quand l'entraîneur Aliou Cissé dit on n'a pas pu faire de foot, mais on n'a pas pu faire de foot aussi, pourquoi? Mais parce que la pelouse, elle n'est pas bonne.
Exactement.
Elle n'est pas bonne.
C'est-à-dire que si vous dites qu'ils ont pas fait une très belle prestation dans le sens du terme beauté, alors, c'est à cause
après,
de ça.
Après, je veux
aussi
bien qu'il y ait d'autres priorités, d'autres chats à fouetter, mais une très bonne pelouse dans chacun des pays africains avec la CAF qui serait derrière pour essayer d'aider, ou du moins pour essayer de vérifier et de contrôler ça, je pense que c'est un minimum syndical, et à un moment, faut pas exagérer non plus. Donc je pense que c'est largement possible.
Surtout qu'à la fin, ça amène les clubs à ne plus envoyer leurs joueurs en sélection ou à mentir en trouvant un prétexte.
Sur des blessures.
On l'a vu sur la convocation d'Aguilar en France. Fernand Mendy, là, le Real n'a pas voulu le libérer. Donc vous allez finir par ce que dit Dabil, c'est très très contre-productif, parce qu'à la fin, ils iront plus en sélection.
Ouais, est-ce qu'ils ont les moyens d'entretenir des pelouses aussi? Parce que le problème, c'est qu'ils...
Je pense qu'il y a quand même la FIFA qui donne, je crois, un million de dollars par an.
En fait, il y a beaucoup aussi de pelouses synthétiques qui se répandent, justement, pour des raisons climatiques, et au Sénégal.
Moi, il y avait juste une petite note, quand même, sur l'équipe du Sénégal. C'est un joueur qui brille encore. C'est Edouard Mendy, gardien de la sélection, que je suis davantage avec Chelsea. Et j'ai voulu voir, j'ai regardé, du coup, le replay de ce match pour voir ce qu'il donnait. Et il a encore été décisif, quoi. Et j'ai l'impression... Je sais pas s'il était comme ça avec le Stade Rennais. J'ai pas souvenir qu'il était aussi décisif à ce point-là. J'ai l'impression qu'il prend de l'épaisseur depuis qu'il a rejoint Chelsea. Et qu'il y a des joueurs comme ça qui, des fois, grandissent d'un coup parce qu'on les amène dans des grands clubs. Et c'est le cas avec Mendy.
C'est sûr que c'est un atout. C'est une des raisons de la arrivée de Rennes en Ligue des Champions, quand même. Ouais. C'est une des très, très bonnes raisons avec Camavinga.
Ouais, mais là, on dirait qu'il y a un peu
Là où tu as raison, c'est que on a l'impression qu'il était fait pour ça, quoi. Fait pour le très grand club. Exactement. À très grosse exposition.
Et on se demande pourquoi pas.
D'habitude,
ça écrase. Il a 28 ans, 27 ans.
Non, mais il est identifié. C'est-à-dire qu'avant, il est arrivé en équipe du Sénégal. C'était le gardien du Sénégal. C'était un gardien de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est un peu une star de l'équipe du Sénégal dans l'esprit, quelque part. Il est identifié. C'est-à-dire.
Comme un des plus grands gardiens du monde, Nabil.
Pardon ?
Il peut devenir un des plus grands gardiens du monde.
On lui souhaite.
Maître
Sech qui le parraine, d'ailleurs.
Et puis comme une Guinée-Bissau qui n'était pas non plus catastrophique.
Elle a fait les deux dernières cas, mais c'est sûr que c'était pas ça.
Dans laquelle a brillé notamment un joueur qu'on voit à Dijon, qui joue à plusieurs postes, qui s'appelle Mama Baldé. Qui est un bon joueur, vraiment.
Combien ça a coûté à Chelsea, Bruno ?
25
millions,
franchement.
C'est cadeau, hein.
Franchement, le PSG, on est très content de Navas.
On peut pas acheter tout le monde, le PSG.
Non, mais souvent, c'est aussi l'argent pour qu'il circule en Ligue 1, pour tout ça. Il y a plein de raisons. Pourquoi tu prends pas Edouard Mendy?
Autre résultat de ces éliminatoires, mais on y reviendra aussi plus longuement quand tu auras eu les allers-retours. La Guinée qui a battu le Tchad sur le score de 1-0. Et puis, deux matchs nuls entre le Kenya et les Comores.
Oui, les Comores 1-1. Qui ont laissé passer leur chance parce que ils menaient 1-0 à l'extérieur face au Kenya. Et franchement, s'ils avaient gagné ce match-là, c'était un pied et demi quasiment lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Ce serait leur première participation. Ouais. Et quand on sait en plus tous les supporters qu'ils ont du côté de Marseille, là j'en parlais avec Mathieu Grégoire qui les connaît, qui les suit.
Bien sûr.
Parce que les trois quarts des joueurs et beaucoup de joueurs sont originaires de Marseille. Mais ils sont encore en position favorable et c'est complètement jouable pour eux.
Ils sont dans le groupe de l'Égypte et ça sera important.
Ouais,
de
face au Togo, qui joue face au Togo.
Exactement. Et puis Mauritanie-Burundi 1-1. Là aussi match nul. Ils avaient ouvert le score, les Mauritaniens.
Ça fait les affaires du Maroc et de la Centrafrique. Et la Mauritanie est quand même bien positionnée dans ce groupe. Bon, normalement, ça devrait être Maroc-Mauritanie, mais on verra.
On verra ça. Ouganda, Soudan du Sud, c'était cet après-midi. Le match s'est terminé sur le score de 1-0.
Pour
1 en faveur des Cranes d'Ouganda. But à la 85e minute de Karim Wantabala.
Et le Soudan du Sud progresse parce que sur ses premiers matchs, il prenait quelques roustes.
Ouais.
Mais on sent que l'écart est en train de se réduire. C'est plutôt bon signe pour eux.
Ils sont dans le groupe du Burkina Faso et du Malawi. Alors, on faisait le tour de certaines nations et on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur un pays que vous connaissez bien, Nabil.
Ah.
Il s'agit donc de l'Algérie, ouais, les Fenech.
Très belle chanson de Chahabi, encore une fois.
Exactement.
Une discographie remarquable dans votre émission.
Elle. N'est-ce pas? Mais ça, c'est le maestro, ça. Les Fenech sont toujours champions d'Afrique en titre et ils le seront, vous étiez tout content, hein, un an de plus.
Ouais, enfin, j'aurais préféré qu'on évite tout
évidemment,
ça et qu'on le soit un peu moins.
Parce que la CAN a été décalée d'un an. Ils le sont aussi, alors, comme les finalistes malheureux de cette dernière CAN, hein, le Sénégal, ils sont eux aussi en tête de leur groupe, le groupe H avec le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe qu'ils rencontrent ce soir à Alger. Le sélectionneur Jamel Belmadi, auréolé donc hein, de ses récents lauriers africains, veut déjà regarder un peu plus loin en pensant, lui, eh bien, à 2022, mais pas à la CAN. Il pense déjà à la Coupe du Monde. Écoutons, c'était sur Canal Plus Afrique, vous étiez sur le plateau, Nabil, et la question lui a été posée de ses ambitions.
C'est l'objectif de toute manière de pas y aller. Ce sera
un échec
considérable. Dès qu'on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif ce sera de la gagner. Non. l'objectif ce sera pas de participer, ce sera pas de faire juste du mieux que l'on peut. Ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Voilà. De toute manière, les joueurs c'est bon. Ils ont compris le truc. Ils se fixent aucune limite. Faut qu'on se qualifie à cette Coupe du Monde. Je sais que ça va être très difficile, qu'on va être attendu partout et c'est normal, pas de problème là-dessus. Et ça va être très difficile. Après, on ne se fixera pas de limite quant aux ambitions.
C'était une émission sur Canal Plus Afrique en début d'année où vous étiez avec Habib Bey et surtout avec Pape Diouf qui était dans cette émission. Alors Nabil, évidemment, quand on a des ambitions, pourquoi pas
J'ai envie de danser à nuit avec ce fond de musique.
Bon alors, je vais m'adresser...
En plus, j'ai du ventre.
Bon, le ton est détendu aujourd'hui après le Père Noël. Nabil, j'imagine que pour les Algériens, cette Coupe du Monde 2014 a laissé quelques envies, quelques ambitions, quelques déceptions aussi de ne pas avoir réussi un grand coup
face à l'Allemagne. Ouais,
oui,
effectivement. Ouais. C'est vrai que c'était un des matchs marquants de cette Coupe du Monde 2014. Après, l'Algérie, elle a une histoire particulière, plutôt réussie avec la Coupe du Monde par rapport à d'autres pays africains, parce qu'en 82 déjà, elle avait d'ailleurs battu cette équipe allemande qui était invaincue depuis 4 ans en Europe et dans le monde. Elle aurait mérité de se qualifier. Ça aurait dû être le premier pays africain qualifié lors d'un second tour, mais il y a eu ce match, vous savez, entre l'Allemagne et l'Autriche.
Elle est revenue
en 86. Bon, il y avait des problèmes internes. Elle est revenue en 2010, mais c'était finalement le principal, c'était de se qualifier après 24 ans de traversée de son désert. En 2014, vous avez raison, Vahid Halilhodžić a réussi à fédérer un groupe et fait émerger des talents, dont certains sont là encore aujourd'hui, comme Mahrez, Slimani, Feghouli, par exemple, Raïs Mboli, le gardien. Après, dans l'idée, évidemment, c'est extrêmement difficile, et il faut pas l'oublier, et je pense que Belmadi est assez lucide là-dessus, il faut réussir à se qualifier. En Afrique, il y a que 5 pays sur 50, donc c'est un combat d'arriver à se qualifier.
Dans chaque groupe, c'est terrible.
Et ensuite, évidemment, il veut instiller quelque part, et ça doit être vrai aussi pour d'autres pays africains, un peu cette idée un peu de culture de la victoire. C'est-à-dire, en gros, souvent, on attend...
Vous parliez c'est pas tout l'essentiel de participer.
Ouais, et puis souvent, c'est comme pour Pogba, vous parliez tout à l'heure d'oscillation. En fait, souvent en Afrique, on attend un haut, un pic. Et puis, en fait, on n'arrive jamais à s'installer dans un minimum de régularité. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a envie, c'est de faire progresser cette équipe. En gros, si en 90, il gagne la Coupe d'Afrique, c'est leur Everest, il n'a pas envie que ça soit l'Everest. Et ensuite, on redescende. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à progresser ensemble? C'est un peu ça l'idée, la philosophie, je trouve, de Belmadi. Et c'est ça que je trouve intéressant chez lui.
Et l'équipe a changé?
Pas tellement. Il y a des joueurs après qui montent un peu en puissance. Alors, on parle beaucoup de Mahrez et tout, mais il y a un joueur qui prend quand même un peu de l'épaisseur. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique. C'est comme le milieu de terrain du Milan AC, là, Ismaël Benacer.
Benacer,
qui est vraiment un joueur très intéressant. Vous avez des joueurs qui ont progressé, qui sont passés par la Ligue 1, qui jouent en Allemagne aujourd'hui, comme Ben Sebaini, par exemple. On a découvert récemment, mais nous, on le connaissait, Ben Lamri, du côté de Lyon. Alors, il y a des talents. Il y a d'autres joueurs qui commencent un peu à pointer le bout du nez, que tu connais, notamment Benrahma, qui est comme un joueur, assez intéressant. Mais en fait, le problème de l'Algérie ou même du Maroc en règle générale, c'est pas tellement les talents. Les talents, il y en a tout le temps. Il y en a globalement, après, des fois un peu plus, un peu moins. C'est d'arriver à conserver cet état d'esprit, pas choper le boulard, parce que des fois, il y a un peu le syndrome méditerranéen, où parfois, ça, c'est la montgolfière, faut le dire aussi, je veux dire. Et garder, conserver une régularité.
Le syndrome de la montgolfière.
Non, mais il y a une telle ferveur que c'est difficile de rester,
Non, mais c'est pas spécialement méditerranéen, les Français.
Ouais, mais crois-moi que là-dessus.
On est méditerranéen, non?
Oui, non, mais
crois-moi que là-dessus, on est bon,
Non, mais ça peut arriver à des Suédois, quoi.
C'est-à-dire que le syndrome méditerranéen, il se traduit sur le terrain.
Zlatan Ibrahimovic, ça lui arrive.
Ouais, mais ça se traduit sur le terrain. matin. C'est-à-dire que si tu fais deux crochets, si t'as pas le syndrome, tu fais pas le troisième. Si t'as le syndrome, tu fais le troisième et tu perds le ballon.
C'est marrant parce que c'est exactement l'image que j'ai du football algérien.
Ouais,
c'est les souvenirs d'enfance que j'avais, moi, avec mes potes algériens, où c'était le football de rue. On jouait sur, moi, c'était la place du marché. Et c'était que des gris-gris et que pour le plaisir de faire des gris-gris.
Ouais.
Mais pas pour gagner. Et il y a eu des générations pas mal de l'Algérie.
Oui, il y a une
année avec Yaoui et quelques autres qui étaient extrêmement bons, qui n'ont jamais percé, qui n'ont jamais été plus haut. Et j'ai l'impression que Belmadi a réussi à peut-être canaliser un peu tout ça et en faire une vraie équipe.
Voilà, c'est ça.
Et le fait d'avoir gagné la CAN, forcément, ça va comme l'équipe de France quand il gagne la Coupe du Monde 98, c'est un capital de dingue.
Oui, surtout des belles aventures. On parlait tout à l'heure de belles aventures à l'Euro. On pensait à l'Islande. Pourquoi pas dans une Coupe du Monde où on a vu certaines équipes aussi comme ça, et pourquoi pas
après le défi du
enfin
foot africain.
Aller loin,
voilà,
pour
vous avez raison.
Africaine.
Après, il y a trois équipes africaines en ce moment qui peuvent espérer. Excuse-moi, Dominique. C'est l'Algérie, le Sénégal et le Nigeria qui donnent des gages un peu de.
Bah, Nigeria, il est toujours là.
Équipe oui. sérieuse, quoi.
Et en plus, il passe le premier tour en général.
Jusqu'à fin 2022, de toute façon, on sera dans un calendrier complètement fou, à cause du Covid et à cause du rapprochement entre des Euros ou des CAN et des
JO.
Et des JO et des COPA et une Coupe du Monde qui va arriver quasiment un an et demi après. Donc, les surprises vont continuer
Tu veux dire que l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde, Dominique?
Disons que je ne l'interdis pas.
Si c'est
je
ça, c'est pas. Couscous pour
je,
toi.
Je ne l'exclus pas. Avec des pois chiches.
Couscous sans boulettes du gardien, en revanche.
La rencontre entre le Ghana et le Soudan, tout à l'heure, c'est une des rencontres de ces éliminatoires, sera précédée d'une minute de silence à la mémoire de l'ancien chef de l'État disparu aujourd'hui, le président Jerry Le Rawlings, à l'âge de 73 ans et vraisemblablement victime du Covid. Pour le président de la CAF, d'ailleurs, le président Hamad, tout va beaucoup mieux. Hein, lui qui avait été hospitalisé, lui aussi, en raison du Covid. Et il est parti se rétablir, informe-t-il via Twitter, se rétablir à Madagascar. En tout cas, ce soir à minuit, la liste des candidatures à la CAF sera close avec toujours, en l'état actuel des choses, 4 noms. Et nous y reviendrons donc demain.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Allez, on va s'amuser autour d'un sujet qui fait polémique en France, hein, comme quoi des fois on manque de sujets, alors on fait des polémiques, autour de Paris et Marseille. Marseille, la ville de l'OM, apparemment, est-elle aussi, plutôt, une ville de foot que Paris? Écoutez le directeur sportif du Paris Saint-Germain, il s'était adressé aux supporters.
Lors d'un live tweet, Annie.
Live tweet, c'était pas un live chat? Hein,
il semble que c'est quasiment pareil.
C'est pareil. Bon. Bref.
Enfin, c'est parti en live, quoi.
Il s'adressait donc à des supporters du Paris Saint-Germain et tout d'un coup, on aurait pu penser qu'en parlant de Tourelle, de Danilo ou de je ne sais qui, il aurait mis le feu aux poudres. Eh bien non, c'est cette déclaration. Écoutez-la.
C'est quelque chose qui a été construit de Daniel Lester à aujourd'hui. C'est pas beaucoup. On part toujours de 50 ans. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, qui ont commencé à gagner, comme Inter, comme Ajax même, ils ont été construits dans les années 1890. Non, c'est ça. Il y a une culture dans la ville, il y a une culture à construire. Paris, par exemple, ça n'était jamais exactement la ville de foot. C'est toujours Marseille. Et la ville de foot à Paris, il y a beaucoup de choses que tu dois encore de faire, parce que Paris, il y a tellement de choses. Moi, quand j'ai joué ici, le football, on jouait le vendredi parce que samedi, dimanche, il y avait des autres activités. Une ville comme ça, ça te donne la responsabilité par rapport à ce que tu fais encore plus importante.
Bon, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma et puis on peut aimer le foot et respirer foot. Ben, en ce moment, tout est fermé. C'est
bien d'avoir mis l'extrait en entier, Nick, parce que ça permet de le contextualiser, quoi.
Mm-hmm.
Parce que je crois pas qu'il ait dit...
C'est une mauvaise polémique.
Je crois pas qu'il ait dit ce que les supporters ou Luis Fernandez
ont voulu entendre.
Je crois que ils profitent de cette phrase sortie de son contexte, certains, pour régler leur compte, parce qu'en fait, Leonardo, les supporters du PSG, ça va mal. Luis Fernandez et les anciens du club, ça va mal. Donc voilà, j'ai pas entendu d'autres personnes réagir. Après, c'est peut-être maladroit, parce que c'était, je vois, il a dit ça au bout d'une heure dix de parlotte. Mais non, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que Paris, qui s'est construit en 50 ans, que c'est déjà une place un peu connue en France et en Europe, et pourtant, on partait de loin, parce que c'est une ville où il y a une richesse qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Mmh. C'était plutôt à l'avantage de Paris de dire qu'ils avaient réussi en 50 ans à construire une belle histoire, selon lui, au Paris Saint-Germain.
Bon, là, il se rappelle qu'il y a 50 ans, parce qu'il y en a qui s'en souviennent pas toujours.
Ouais, alors que, il y a, effectivement, vous interrogez les Parisiens, je pense qu'ils savent que le PSG existe, mais bon, combien de Parisiens s'intéressent pas au foot, ou n'y sont jamais allés au parc, préfèrent le théâtre du Châtelet, les cinémas, d'autres choses. Donc, il dit, c'est pas mal d'avoir réussi en 50 ans à construire quelque chose dans une ville qui n'était pas forcément prédestinée à aimer ou à avoir un club de foot.
Mais
c'était plutôt à l'honneur de Paris.
Mais Bruno, je suppose que à Londres, où il y a du cinéma, où il y a des théâtres,
il y a
combien de clubs de foot de première ligue? Il y en a une dizaine, non?
Le truc, pratiquement la moitié de Londres. Londres n'est pas plus une ville de foot que Paris. La seule différence, c'est qu'à Londres, il y a une dizaine, voire presque une quinzaine, si on compte les grands arrondissements, enfin les grandes banlieues, une dizaine, quinzaine de clubs. C'est ça la différence avec Paris. Paris, on n'arrive même pas à avoir un deuxième club.
Bah, peut-être Paris FC est premier de la Ligue 2. Peut-être qu'on aura deux équipes parisiennes.
C'est peut-être aussi une histoire de culture. Non,
mais il y a une histoire de culture qui tient plus au pays, pour moi, qu'à la ville de Paris. Mais après, Paris, c'est quand même une ville à part. Il y a quoi, 4 villes pour moi au monde comme ça. Il va y avoir New York, il va y avoir Tokyo, il va y avoir Londres et Paris, qui sont des grandes capitales, qui sont des mégalopoles, qui sont très culturelles. Et forcément, le foot a une part un peu moins importante. Mais tout ce que dit Leonardo, pour moi, est vrai. Totalement vrai. Et puis surtout, à aucun moment, il critique ne serait-ce que le PSG, ses supporters, ou même ce que le club a gagné par le passé.
Oui.
C'est juste que... C'est marrant, moi, ça me fait penser à une phrase que, quand on montre la lune à un imbécile, l'imbécile regarde le doigt. Et ben pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Leonardo. Ce qu'il dit, c'est très vrai.
Je comprends mieux maintenant pourquoi, en fait, non.
Ça y est. Mais ce qu'il dit sur Marseille, c'est vrai. C'est l'une des très rares villes, grandes villes de foot en France. Très très rare. Il y en a très très peu en France, des grandes villes de foot.
Alors,
on
n'est
pas un pays de foot. On n'est pas un pays de foot.
Louis, il est sorti du bois.
Luis Fernandez était un peu en colère en disant 1996-1997, le PSG a disputé des finales de Coupe européenne. Et donc, aussi...
Il n'a pas dit le contraire.
Non, mais parce qu'alors, en opposition à Marseille, évidemment, parce que Marseille ayant gagné une fois la fameuse Coupe d'Europe qui est la Ligue des Champions, tout d'un coup, ça serait la ville du foot. Est-ce que vous avez l'impression, Nabil...
Moi, je pense qu'il ne le dit pas dans ce sens-là. Hein. Pour moi, il le dit...
Mais la référence par rapport à Marseille...
Les références à Marseille...
Les ultras l'ont pris comme ça.
Oui,
mais enfin, les ultras, leur
ce qu'il dit sur Marseille, c'est que si vous mettez un pied à Marseille, vous arrivez à Gare Saint-Charles ou à l'aéroport, vous mettez un pied dans la ville de Marseille, vous voyez l'OM partout dans toute la ville, dans le centre. Elle est omniprésente, l'OM.
Marseille, c'est Naples.
Exactement.
Et Rome, c'est Paris Saint-Germain, même si Rome, il y a quand même une ferveur incroyable. Moi, je trouve qu'il a fait une erreur de com' quand même. Alors, il a raison. Sauf que c'est pas son rôle de mousser l'adversaire. Et c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que lui, qui aime être beaucoup sur le registre de la com, qui en fait trop parfois, et ben là, il s'est peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux. Alors le communiqué des ultras, bon, ouais, je le trouve outrancier, irrespectueux
ridicule.
En plus.
Il lui demande de le rencontrer.
Ouais, puisque sur ce qu'il dit sur la ville de Marseille, je trouve ça nul. À un moment, ils disent, oui, si on enlève le club de foot, il reste quoi? La saleté des... Enfin, je veux dire, ça, c'est diffamatoire et tout. C'est vraiment grotesque. Puis certains doivent passer leurs vacances dans les calanques à Marseille au passage. Mais enfin, bon, on connaît tous l'histoire. Ça a dû arriver à certains, j'en suis persuadé. Donc voilà. Oui, moi, je trouve qu'il a raison sur le fond, mais je pense qu'il a fait une erreur quand même de com, parce qu'il est quand même directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et son but, c'est quand même pas de mousser l'adversaire, qu'on le veuille ou non. Si on entend le directeur sportif du Real dire un truc super sur le Barça, bah, vous aurez les mêmes réactions de l'autre côté. Et voilà, bah, c'est le jeu, c'est comme ça.
Il a vraiment voulu dire que c'était fort ce qu'a fait Paris en 50 ans, ouais, déjà, pour une ville qui n'était pas prédestinée à avoir un club de football de cette dimension-là. C'est ça qu'il a voulu dire, je crois. Peut-être qu'il l'a mal dit.
Mais non, mais il fallait pas utiliser le mot Marseille. Mais c'est-à-dire
il a voulu se comparer en disant qu'en fait, ils étaient en avance. Il a dit, nous, c'est pas la ville du foot, et pourtant, on est plus fort.
Oui, mais c'est, pour le coup, la comparaison n'est pas raison, là, pour lui. Pour le coup, je pense qu'il a forcément déclenché un truc chez... finalement, les supporters du Paris Saint-Germain, je vois les réactions. Alors, je dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas la dictature des réseaux sociaux qui doit absolument primer, mais il y a quand même des réactions, de gens raisonnables, qui se disent, bah, il aurait pu éviter.
La ville du foot, c'est toujours Marseille, mais c'est un présent de narration. Il est même pas en train de dire, c'est toujours Marseille. Non, là,
tu penses pas qu'il met l'opposition en disant, l'OM, c'est une ville de foot. C'est ceux qui sont aimés, et le PSG, quoi qu'ils fassent, ils sont mal aimés. Parce que c'est la capitale. Ça reste la capitale, ça, et que les gens détestent la capitale.
Certainement. Et on en restera là.
C'est passionnant.
C'est vous qui avez le mot de la fin, Bruno Constant.
Vive le plaisir.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot, et revenez très vite dans cette émission. Laurent Salerno était donc à la réalisation, David Finzel et Pierre Guérin étaient aussi là pour aider à préparer l'émission. À demain.